terre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et Stéphanie Valois et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Elisabeth Collet. Porter son regard cette semaine sur le roman Ordo de Donald Westlake, découvert grâce au passage de l'érudit Pierre Liscure dans l'émission. Le texte paru en 1986 est un texte sensible qui cache sous une apparente simplicité, profondeur et intelligence. Un jeune militaire de la marine américaine a été marié à une femme devenue après leur séparation une star hollywoodienne. Tandis que tous ses camarades lui demandent comment c'était au lit avec elle, il se remémore ce joli passage. Je me rappelle qu'elle avait des bras très doux et qu'elle aimait me passer ses bras autour du cou et elle ouvrait grand la bouche quand elle riait et elle noyait toujours ses frites dans tellement de ketchup que je lui disais toujours qu'il me faudrait une pince à glace pour les manger. Et un jour au lit, elle a finalement avoué qu'elle ne savait pas ce qu'était une pince à glace et elle a pleuré parce qu'elle était sûre qu'elle était bête. Et nous avons fait l'amour cette fois-là pour que je lui fasse comprendre que petit A, elle n'était pas bête et petit B, je l'aimais de toute façon même si elle était bête. Et c'est seulement ce moment-là en particulier que je me rappelle un peu, surtout parce que c'est la fois où j'ai compris que je pouvais me maîtriser et me retenir d'éjaculer presque aussi longtemps que je voulais, presque éternellement. Notre invité est un auteur, réalisateur et comédien dont tous les anciens fans des Guignols et de Groland apprécient l'esprit punk. Il a réalisé avec Gustave Kervern 10 films qui viennent d'être rassemblés en coffret chez Ad Vitam. Et un livre de Christophe Jeudin et Jérémy Imbert est également paru aux éditions La Tango sous le titre « Le cinéma » de Benoît Delépine et Gustave Kervern. Ça vous donne un sacré indice sur l'invité. Et le prochain film du tandem sera intitulé « En même temps ». Ça sortira au moment des présidentielles.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Benoît Delépine.
Bonjour.
Bonjour.
Bah oui, parce que c'est jamais, ça peut être entre bonjour et bonsoir. Donc bonjour, ça marche toujours.
C'est vrai. Ouais. Êtes-vous content d'avoir été mis au monde ?
Bon, je sais pas, j'avais rien demandé, hein, mais bon, c'est, finalement ça va, mais c'est le hasard, c'est magnifique le hasard.
Pas toujours.
Bah si, parce que si, il faut considérer quand même que c'est absolument inouï qu'on soit là même en train de parler tous les deux dans un studio sur cette bonne vieille terre. Donc non, on peut dire que c'est toujours bien quand on est un être humain d'être sur Terre.
Êtes-vous en bon terme avec vous-même ?
Ça va, ouais, je j'arrive vaguement à m'accepter, mais je m'admire pas du tout, mais je m'accepte, voilà.
Ça a toujours été le cas ou ça a été le résultat d'un travail ou d'une cohabitation inévitable?
C'est plutôt une cohabitation inévitable. Non, mais c'est vrai. Pour moi, le corps humain, notre corps, quoi, c'est comme une espèce de combinaison. Enfin, je l'ai dit dans un de nos films, d'ailleurs. Une espèce de combinaison. Alors, on sait pas qui est-ce qui nous donne cette combinaison avant d'arriver sur Terre, mais enfin, une fois qu'on l'a, on peut pas s'en débarrasser comme ça. Donc, faut faire avec, quoi.
Mais vous ne la haïssez pas, cette combinaison?
Non, mais disons que, bon, je m'aime pas plus que ça, quoi. Je me regarde pas et je vais jamais sur Internet pour voir ce que je deviens, quoi.
Benoît Delépine, le café vous donne envie de vous lever. Alors je suis assez étonnée des réponses des invités parce que j'attendais soit de grands désirs pour avoir envie de se lever, soit pas d'envie de se lever. Et pour l'instant, on m'a parlé de café, de cappuccino et de pain grillé. Ça suffit ?
Bah tu vois, ça, la nature humaine est quand même. C'est pour ça que je te dis, c'est miraculeux, quoi. Il nous faut pas grand-chose hein, pour avoir envie de nous lever, en fait. C'est pas mal.
Donc il y a quelque temps, j'avais reçu Gustave Kervern dans l'émission qui s'appelait à l'époque Remède à la mélancolie, qui était un peu autre, et il nous avait parlé de sa mélancolie foncière. Vous semblez être moins splinétique, mais je sais pas.
Bah ouais, non, je suis peut-être plus noir dans mes idées, mais moins noir dans ma façon d'être. Enfin, je ris facilement, on va dire.
Bon, alors dans un instant, on va un peu voir votre équipement existentiel, Benoît Delépine. Il sera entre autres question de peur, de boutons, de Bill Viola, d'arbres, de tournées, de Gérard Lozier, de Charlie Chaplin, de Buñuel, de Jérôme Bosch, de Philippe Cadic, de Sapiens et de Machine à écrire. On a jusqu'à 11h pour tout passer en revue.
Te souviens-tu des heures que nous passions ensemble dans la douceur du soir, habillés de candeur? Qu'est-elle devenue cette robe légère que j'avais accrochée, d'autres se sont amassés. Quelle est donc cette douleur étrange, comme un nouveau poids sur l'existence? L'insouciance était telle que nous pensions ensemble soulever de nos mains le monde qui semblait éternel. Nos enfants seraient beaux, ils auraient devant eux de splendides chemins et à jamais le chant des oiseaux. Nous rêvions de tout dans tous les sens, sans souci du poids de l'existence. Nos corps alanguis, jouissant de la douceur d'une soirée de novembre, belle comme une robe d'été. C'est alors que les ombres ont ajouté à nos êtres cette part du monde qui, au fond, nous avait échappé. Nous courions en larmes dans tous les sens, recherche du poids de l'existence. Quand nous avons marché, levé nos corps pour que le monde nous entende, nous avions foi en quelque chose. Se pourrait-il qu'un jour la beauté nous rassemble et nous emporte?
Oiseau, le poids de l'existence dans l'embellie sur France Inter.
Je crois que c'était Barbara.
Ah oui.
Un peu.
D'accord. Nous sommes donc avec Benoît Delépine, et pour introduire l'une de vos réponses, Benoît Delépine, j'ai choisi un morceau que j'adore, un morceau de film d'horreur. Faites attention aux mots italiens répétés en boucle. Du groupe italien Goblin, la bande originale du film Ténèbres de Dario Argento. Si vous avez bien écouté, vous avez entendu qu'il disait paura, peur, en boucle. Peut-être que je vous raconte n'importe quoi, mais moi j'aime
non,
bien
non,
cette
si,
version.
Si, maintenant que vous me le dites, voilà, j'ai remis en accéléré, c'est vraiment paura.
C'est justement l'une des choses que vous aimeriez changer dans votre environnement, Benoît Delépine. Vous aimeriez être plus tranquille, que le monde le soit aussi, et qu'il y ait plus de justice sociale, moins de peur du lendemain.
Ouais, mais bon, c'est vrai que tout ça est tellement complexe, ça laisse un peu désemparé. Enfin, c'est-à-dire que J'aimerais pas être un homme politique, en fait. C'est bien, c'est gentil de s'en moquer, mais j'aimerais pas vraiment être un homme politique parce qu'il y a tellement d'intérêts contradictoires un peu partout. Ne serait-ce que celui-là, d'ailleurs. Même la justice sociale est contradictoire. C'est-à-dire que on aimerait bien que tout le monde fasse partie de la classe moyenne, par exemple, qu'il y ait plus de pauvres et moins de très riches, on est bien d'accord. Sauf que là, rien qu'en venant en TGV chez vous, je me suis aperçu, en allant sur Wikipédia, qu'il y avait déjà 1 milliard 400 millions de voitures dans le monde et que la voiture était justement le signe de la classe moyenne. Donc quelqu'un qui a une voiture, c'est quelqu'un qui gagne à peu près bien sa vie. Il a une voiture et donc il pollue comme un sagouin. Donc voilà, donc il faudrait malheureusement se battre pour qu'il n'y ait aucune justice sociale, que tout le monde soit pauvre. Voilà.
Benoît de Lépine, dans pratiquement tous vos films avec Gustave Kervern, la justice sociale, elle peut être garantie par la mort du patron ou la mise à bas du pouvoir.
Ah, vous avez remarqué, c'est
quand
même...
Oui, j'ai remarqué, je suis un sacré détective privé, vous avez
oui, mais je ne sais pas si vous aurez peut-être remarqué, mais c'est la seule fois où on utilise une arme en 10 films. C'est quand même à noter. C'est une arme à feu qui tue un grand patron voyou. Voilà. Au moins, on n'est pas comme les Américains qui utilisent, ou d'autres d'ailleurs, qui utilisent des armes à feu à longueur de film, soi-disant pour les condamner. Non, nous, une seule fois est la bonne.
Vous êtes écolo?
Bah oui.
Est-ce que tous les patrons sont des salauds?
Non. Non, moi j'en ai eu 2, voire 3 très très bons. Donc je peux rien dire. Je peux même les citer d'ailleurs.
Bah, si vous voulez.
Christian Blachas, Jean-François Bizot et Alain Dejaffe. Voilà.
Alors justement, là vous faites une transition parfaite, Jean-François Bizot, puisque Benoît de Lépine, l'argent, il y a quand même un sujet autour de l'argent dans votre œuvre et dans votre façon d'habiter le monde. D'abord, ça a commencé avec un journal Fac-Off que vous aviez fait et vous avez immédiatement fait faillite, 200 000 francs de dettes que vous avez remboursé grâce à l'argent de la pub. Et la pub, ouais. Vous vous êtes fait passer pour vous faire recruter dedans pour un journaliste d'Actuel.
Voilà.
En disant...
Que je ne connaissais pas.
Mais oui. En disant, j'ai 2 mauvaises nouvelles. Une fois qu'il avait accepté de vous écouter, 1, je ne suis pas journaliste Actuel. 2, ce que vous faites, c'est de la merde. Alors embauchez-moi.
Voilà. Bah ouais, j'avais dit, deuxième bonne mauvaise nouvelle, tout ce que vous faites, c'est de la merde. Mais pour tel produit, j'aurais pas dit ça. Oui. J'avais quand même balancé quelques slogans à l'époque qui étaient, à mon avis, assez minables. Mais en tout cas, j'avais été embauché. Non, la suite, c'est que j'étais embauché pour 1 mois parce que le patron en question m'a dit, bon, écoutez, soit vous êtes cinglé, soit vous êtes génial, donc je vous prends pendant 1 mois. Et au bout d'un mois, il a bien sûr vu que j'étais cinglé, quoi. Donc j'étais reviré.
Votre société de production, elle s'appelle No Money Production.
Ouais, tout à fait.
Et alors, je crois que pour produire Avida, qui n'était pas un film facile à produire par son caractère surréaliste, Mathieu Kassovitz, le producteur, donc était intéressé, contrairement à plein d'autres.
Ah oui, et... c'est même le seul, on peut le
oui.
dire.
Mais alors vous, Benoît de Lépine, lors du rendez-vous, vous vous êtes disputé pour la première fois avec Gustave Kervern, ça vous a tellement bouleversé qu'à un moment vous êtes tourné vers Kassovitz et vous lui avez dit « Toi, va te faire enculer avec ton pognon, vous savez vous
c'est vrai qu'on n'est pas fort du tout en entretien d'embauche. Mais c'était tellement énorme qu'il a cru que c'était une caméra cachée, donc il arrêtait pas de chercher après la caméra partout, et il faisait même des clins d'œil à Gustave qui a cru qu'il était homo du coup, mais c'était absolument n'importe quoi, donc le lendemain on lui a envoyé une petite lettre pour dire voilà, on est peut-être pas encore tout à fait au point dans notre scénario, mais en tout cas ça l'a pas empêché de produire notre film qui est aussi fou que ce rendez-vous d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Quand je vous ai interrogé au sujet de votre engagement, Benoît de Lépine, vous avez répondu que vous n'étiez pas assez impliqué. Et là, vous écrivez « Se réunir, parler, laisser le pouvoir au plus fort en gueule, même au plus intelligent, libérer les effets pervers qui vont avec, autant d'efforts que j'ai de moins en moins envie de faire. Par contre, réparer une serrure, planter un arbre, coudre un bouton, payer une tournée, d'accord. » Libérer les effets pervers qui vont avec ?
C'est tellement compliqué, quoi. J'ai un trop petit cerveau, c'est pour ça. Heureusement qu'avec Gustave, on est 2 pour arriver à faire des films, parce que le monde est tellement complexe que dès qu'on essaye de résoudre un problème, il y en a un autre qui naît, quoi. Moi, j'habite vraiment à la campagne. Par exemple, le maire de mon village avait organisé chez moi un rendez-vous avec tous les gens du hameau. Et vraiment, il y avait un truc complètement évident, par exemple, hein, c'était de faire en sorte que d'interdire aux camions de traverser le hameau, parce que c'était délirant, des énormes camions sur une petite route comme ça. Alors tout le monde était d'accord, jusqu'au moment où, bien sûr, un de mes voisins dit « Bah oui, moi je suis routier, faut que je puisse rentrer chez moi », puis un autre « Bah moi aussi », puis un troisième « Bah moi aussi ». Donc voilà, c'est infernal, enfin c'est très... Il faut faire des études, c'est pour ça que je suis pas forcément contre l'ENA en soi.
Ah oui. Alors ça, c'est un scoop. Quand vous dites que vous avez moins envie de faire les efforts soulevés en début de paragraphe, c'est à cause d'une désillusion, d'une flemme ou d'un désintérêt ?
Non, pas du tout d'un désintérêt. Je trouve que, enfin, justement, j'adhère complètement à ce que font plein de jeunes, d'ailleurs, d'essayer de faire plein d'efforts, mais au niveau très local, d'essayer de chez soi de faire des efforts, de faire de la permaculture, d'être le plus souvent possible en vélo, etc., d'aider des causes locales, d'aider des gens localement près de chez soi. Enfin, non, je suis à fond pour ça. Je crois qu'il y a que ça qui peut fonctionner, d'ailleurs.
Quand vous avez fait Michael Kull contre la World Compagnie, qui a été un échec sur tous les plans.
Voilà.
Vous dites d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans des tournages, quand vous ne savez pas comment agir, vous pensez à ce film et vous faites exactement le contraire.
Ouais, c'est ma boussole à donner le sud.
Ce film a permis de belles choses, je crois, la création d'une association et de plusieurs...
Tout à fait. Le producteur de ce film s'appelle Charles Gassot. Après le film, alors c'est pas dû au film, hein, il y a eu d'autres raisons, mais il a totalement arrêté le cinéma. Et donc, mais à part ça, et il s'est complètement jeté dans une association, il a créé une association qui s'appelle École du Monde à Madagascar, là où on avait tourné le film, parce qu'on avait été complètement effaré, scandalisé, mais même en rentrant dans une école là-bas à Madagascar, un grand bâtiment avec une institutrice pour tourner à l'intérieur des scènes qui auraient dû être ailleurs, il n'y avait rien du tout. Donc Charles demande à l'institutrice, mais comment vous faites pour apprendre aux enfants à lire et à écrire? Et avec son doigt, elle s'est mise à écrire par terre, dans la terre, quoi. Donc là, c'est dit, non, il faut vraiment faire quelque chose. Et ben, l'association, elle dure maintenant depuis 20 ans. Ils en sont à une quarantaine d'écoles là-bas sur le site. Ça va jusqu'à les collèges, lycées, etc. Donc c'est vraiment bravo à Charles Gassot. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à faire des dons à École du Monde. Je crois qu'il va bientôt y avoir une vente aux enchères avec plein d'œuvres d'artistes qui sont aussi pour cette association.
Benoît Delépine, Gérard Depardieu, dites-vous que vous êtes un pamphlétaire. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Je ne sais pas. Un pamphlétaire, non.
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 D'accord.
Moi, je regarde la réalité, puis je vrille. Mais pamphlétaire, ça veut dire être méchant pour être méchant, mais ce n'est pas le cas.
Vous avez un autre engagement qui est de faire rire. Et dans le livre consacré à votre cinéma, au film que vous avez réalisé avec Gustave Kervern, il y a un petit encart. Je crois que ça faisait partie de vos papiers personnels. C'est assez émouvant, il y a marqué en 1986 « Ce que je veux, faire rire la France entière avant 88 et un peu plus bas, en imposant le style crétin.
» Bah oui, non mais c'est fou, j'ai
bravo.
Trouvé... Non mais c'est vrai, justement, Christophe Jeudin et Jérémy Imbert sont venus chez nous, que ce soit chez Gustave ou chez moi, on a fouillé nos archives, etc. Je suis tombé sur ce papier, j'étais effaré, je me suis dit quand même quel...
Quelle
détermination dans le vice.
Benoît Delépine, je vous ai demandé deux belles choses à recommander aux auditeurs. La première, c'est un arbre, n'importe lequel. Ça n'existe pas un arbre avec une sale tronche ?
Franchement, il y a toujours quelque chose d'intéressant dans un arbre. Ça veut toujours dire, je sais pas, quand il est penché, c'est parce qu'il y a eu du vent, ou je sais pas, enfin, même quand il est irrégulier, c'est toujours intéressant. D'ailleurs, j'ai vraiment moi-même un faible pour les choses un peu irrégulières. Mon animal préféré, enfin, Gustave, vous le savez, c'est l'ours, mais moi, c'est l'orignal, l'élan, parce qu'il a un grand museau, comme ça, ça va pas du tout avec le reste du corps, mais c'est vraiment, je serais prêt à faire je fais d'ailleurs des centaines de kilomètres pour aller voir des orignaux parce que ils sont dans les eaux par exemple, ils ont du mal à survivre, ils mangent des arbres qui sont assez rares en Scandinavie, et donc là je ne connais que deux endroits en France où il y a des orignaux et je m'y rends régulièrement parce que je veux les voir et les cajoler.
Et vous les touchez ?
Non, je les touche pas, mais ils sont tellement fascinants que je peux les regarder pendant une heure ou deux, quoi.
Vous vivez dans une zone blanche à la campagne ?
Alors là, vous allez... Je vivais dans une zone blanche.
J'ai mis le doigt
blanche.
Sur...
Non.
Une chose douloureuse.
Mais de façon hallucinante, figurez-vous que depuis une semaine, j'ai la fibre.
Incroyable.
Ceux qui habitent en province, ça va pas les surprendre, mais vous savez que la France entière était... Enfin, il y avait plus les poteaux télégraphiques et tout, et maintenant la France entière est couverte de poteaux avec des dizaines de fils qui pendent partout, parce que justement, il y a la fibre jusque dans les villages les plus reculés, comme le mien en Charente.
Benoît Delépine, j'avais lu dans une vieille interview que vous aviez du mal à vivre en société. Vous disiez « je suis tellement un handicapé de la vie que j'essaie de sortir le moins possible ». Est-ce que c'est toujours le cas ?
Ah ben non, mais j'ai réussi justement à trouver un endroit où je suis tranquille. Hein, voilà,
oui, mais loin de
l'humanité. Loin de l'agitation. Hein. Mais je peux regarder le monde de haut parce que je sais pas. Enfin, si vous avez vu dans le livre, mon bureau est dans une. J'ai fait une fusée avec un silo, donc
oui,
je suis tout là-haut et je vois un petit peu ce qui se trame dans le monde entier.
Tel le créateur, selon vous, le plus grand des serial killers. Vous avez fait une BD sur le fait que Dieu soit le plus grand des serial killers.
Vous avez lu ça?
Bah non, mais j'ai
God
vu
Killer.
Ça.
God Killer. Oui. Ah ouais, God Killer. Mais attention, il est terrible hein, cet album. Hein. Faut surtout pas l'adapter au cinéma. Hein.
Ah bon, bah je vais le lire et on va l'adapter.
This sound that we're listening to now is really very special. It's the sound of wind coming in the open windows while driving. And I've actually recorded that sound a number of times. The piece I made in 83, Room for St. John of the Cross, has that sound in it. It's a beautiful sound because you can't quite place it. Is it close? Is it far away? And of course, it's very deep and I think it's a primordial kind of sound.
L'artiste américain Bill Viola en 2005 sur France Culture, là il explique qu'il a enregistré le bruit du vent qui s'engouffrait dans sa voiture quand il roulait fenêtre ouverte pour le mettre dans une installation et il parle de la profondeur de ce son, de son caractère primordial. Benoît Delépine, vous avez choisi ces œuvres, pourquoi ?
Mais c'est très étonnant ce qu'on vient d'entendre parce que figurez-vous que, enfin chez moi donc en Charente, j'habite vraiment en pleine campagne et un jour il y a eu une tempête mais terrifiante avec des éclairs partout, un vent ultra violent et j'ai pris mon petit téléphone portable, je l'ai posé sur la petite fenêtre des toilettes et on voyait les arbres qui partaient dans tous les sens, les éclairs, etc. J'ai filmé ça, enfin un peu comme ce qu'il est en train de faire là et avec ce petit film qui durait 3 minutes, eh ben c'est le début de Near Death Experience.
Avec Michel Houellebecq.
Voilà, avec le générique qui défile, etc. Donc c'est très très important d'être à l'écoute de la nature comme ça. Mais Bill Viola, enfin j'ai pas pris la peine de réviser dans Wikipédia, mais en tout cas j'étais un jour complètement. Enfin j'aime bien l'art contemporain, j'aime bien me balader un peu partout quoi qu'il arrive. Mais là, enfin c'est rare que l'art contemporain me chope à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une expo de Bill Viola il y a une petite dizaine d'années ici à Paris là, mais c'était des chocs sur chocs, mais c'est-à-dire des chocs qui changent votre vie, quoi. C'est-à-dire, je vois encore ces espèces de fontaines avec des gens qui passent sous une fontaine géante comme dans un autre monde, dans les enfers, on va dire. Et puis aussi cet écran de télévision où il y avait à la fois, comme ça, en transparence, peut-être lui, bébé, au moment de la naissance, mais aussi en dessous, en surimpression, un film de sa maman en train de mourir. Mais c'est un truc incroyable, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, l'art atteint le plus profond de nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment, c'est pas du tout gratuit. Au contraire, c'est pas seulement conceptuel. Il y a toujours, bien sûr, une idée. Mais en tout cas, elle va beaucoup plus loin que chez certains.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter. Thank you.
Costitiotis du trio chypriote Monsieur Doumani dans l'embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Benoît Delépine. Voici quelques-uns des œuvres et artistes qui vous ont aidé à faire face au monde.
Fiche-moi la paix.
Mais pauvre idiot, tu comprends pas que si t'invites, c'est pour te sauter.
Non, tu crois?
Mais c'est ça, fous-toi de moi en plus. On va régler ça à la maison.
J'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Fiche-moi la paix.
Brigitte, ça suffit. Ça va mal finir, tu m'entends?
Ça va durer longtemps ce jeu-là.
Fiche-moi la paix, je vais chez le coiffeur.
Puis t'as fini de te donner un spectacle, oui?
Pauvre crétin, tu crois que Sacha a encore besoin de m'inviter au Brésil pour me sauter, comme tu dis?
T'es pas en train de me dire que t'as couché avec ce vieux playboy?
C'est un homme très bien, figure-toi. Il est plein d'attention pour moi, il m'invite dans des endroits à la mode, il me présente à des gens drôles et il fait très bien l'amour.
Salope!
Salaud, tu oses me flamper! Salaud! Salaud!
1980, extrait du film Je vais craquer de François Le Terrier avec Christian Clavier et Nathalie Baye, film adapté de la bande dessinée La course du rat de Gérard Lozier, paru en 1978 chez Dargaud, qui, je cite vos mots, Benoît Delépine, a déniaisé le gamin de la campagne que vous étiez.
Bah ouais, surtout en bande dessinée d'ailleurs, parce que les films, je suis un peu moins fan, mais en tout cas les bandes dessinées elles-mêmes, je les trouve, il y a une espèce de tenue dans chacun des personnages, enfin c'est magnifique, mais surtout il y a un espèce de snobisme sous-jacent du parisien en général, quoi, mais hyper bien vu. Et c'est vrai que quand on en est à la campagne, ça dépasse tous les stages de formation. C'est-à-dire, en quelques albums, on sait à quoi s'en tenir avant d'arriver à Paris et d'avoir à affronter ce type de personnage, quoi.
Parce donc, que La course du rat, c'est l'histoire d'un type qui est marié, mais qui voudrait brancher.
Je crois que c'est un publicitaire un peu branché, puis qu'à un moment, on a marre, il fait sa petite crise de la, je sais pas, quarantaine, il décide de devenir écrivain, etc. Mais c'est hyper bien vu, quoi. Mais comme effectivement à l'époque, dans un côté un peu plus provincial, il y avait les Galettes de Pont-Aven, de où vraiment c'est un peintre, un représentant lui de son côté qui décide de devenir peintre et tout. Non, mais tout ça c'est assez beau. Hein.
De Saria. Benoît Delépine, avant de découvrir le cinéma, vous avez eu un choc en découvrant la bande dessinée, notamment par le magazine Pilote, et vous aviez fait d'ailleurs avec l'ami qui vous a fait découvrir Pilote, Polyte.
Voilà.
D'après le nom du journal que tenait Achille Talon dans Pilote.
Tout à fait.
Et Croque-Nord aussi, un magazine de BD voilà. À 23 ans.
C'est un album de BD, mais on avait fait un album de BD parce que justement, comme vous avez parlé tout à l'heure de mes problèmes de faillite, mais avant de faire faillite, on essayait de faire un gros coup pour se refaire, quoi. Et on avait trouvé une bonne idée, c'est de faire un album de BD, mais juste de la taille de la poche. Pour qu'il soit volé, quoi. Parce qu'on s'était rendu compte que quand un album était volé, le libraire devait quand même payer le prix du livre à l'éditeur, quoi. Mais malheureusement, même en ayant exactement la taille de la poche, il n'avait pas été volé.
Ah non, ça c'est très vexant. Vous avez été scénariste de bande dessinée de 3 albums avec les dessinateurs Stan et Vince, donc God Killer, auquel on faisait référence tout à l'heure, L'Imploseur et La Bombe. Vous vouliez faire carrière, en fait, dans la bande dessinée?
Ben pas tellement, mais c'est parce que j'adore la bande dessinée et la science-fiction. Donc là, en l'occurrence, ça me permettait, après mon échec avec le Michael Cole, ça me permettait de faire du cinéma sans en faire, puis surtout de faire les films que je savais ne pouvoir jamais faire, puisque la science-fiction, ça coûterait une fortune. Donc au moins avec eux, j'ai pu raconter ces trois histoires qui sont réunies dans un album qui s'appelle Now Future. Et mais c'était en l'an 2000, et pour moi l'an 2000, c'était le futur.
Dans votre panthéon, il y a Charlie Chaplin aussi, une révélation politique absolue, sans la punition de lire Karl Marx, dites-vous. Mais je crois que c'est pas mal, hein, Karl Marx.
Oui, 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 non, non, bien sûr, bah non, c'est très, très bien vu, Karl Marx. Mais en tout cas.
Bien vu, Karl.
Bien vu, Karl. Mais bah, Charlie Chaplin, l'air de rien, enfin, il était très courageux aussi de faire ça aux États-Unis à ce moment-là, en plein macartisme et tout. Franchement, c'est très, très fort ce qu'il a fait. Et puis, c'est quand même un gagman énorme, quoi. J'ai encore revu dernièrement un de ses courts-métrages, mais où ça s'appelle Jour de paye et il rentre le soir complètement ivre. Mais il faut voir Charlie Chaplin qui fait le mec ivre. C'est très difficile à faire. Nous, on s'en aperçoit souvent dans Groland quand on fait des sketchs qui ont un rapport avec l'ivresse. Il y a beaucoup d'acteurs qui se révèlent mauvais à ce moment clé. Et lui, non, il était magnifique.
Avec l'argent que je vais m'acheter un château d'eau, tu vas faire quoi, toi? Te payer une vraie opération?
Je les connais, ils sont capables de me reconnaître pour l'anesthésie. Puis un jour, clac, ça y est, te suce l'âme.
Ils me suceront rien, j'ai l'âme trop pourrie.
Méfie-toi. Ils sont nombreux là-haut. Jésus, Dieu, Allah, Bouddha, il y a du monde à te surveiller.
T'as du monde pourquoi?
Du monde, il te chope et puis c'est fini, il te bouffe.
Il te chope pourquoi?
Il te chope et c'est tout.
Il te chope pourquoi?
Laisse tomber, tu cours pour rien.
Extrait de votre film Benoît Delépine, réalisé avec Gustave Quimperne, Avida, d'après le nom ironique que donnait Breton à Dali, c'est l'anagramme de Salvador Dali, Avida Dollars. On entend Éric Martin et vous qui avez le nez scotché dans l'un de vos films, hommage au surréalisme qui vous a tant influencé, notamment Buñuel et son film L'âge d'or, qui vous a donné accès au mystère de l'art, dites-vous, un film coécrit par Dali que vous avez découvert à 7 ans.
Ben, ça c'est un film qui marque définitivement, mais c'est même le seul film que je peux revoir, enfin plein de fois même, mais le seul, hein. Que ce soit Gustave ou moi, les films c'est pas comme les crevettes, on les décortique absolument jamais, quoi. Donc on les voit une bonne fois, puis on aime bien, on aime pas, mais celui-là, hein, je pourrais le voir jusqu'à la fin de mes jours, parce qu'il reste mystérieux tout le temps. Et d'ailleurs hier, je crois que sur Arte, je suis pas sûr, mais je voyais une interview de Buñuel qui disait, mais non, mais on n'arrête pas de me demander d'expliquer ce film, mais non, c'est inexplicable. C'est ça que j'adore dans ce film, c'est que c'est inexplicable. C'est le mystère absolu. On sent que c'est le monde. Oui, effectivement, le monde des rêves, il est inexplicable. Le lendemain, on sait que il y a des petits rapports avec ce qui s'est passé la veille. Mais en tout cas, non, ça reste très mystérieux aussi. Et c'est ça que j'adore dans ce film. D'ailleurs, c'est le seul que j'aime à ce point-là. Hein. Ceux d'après étaient moins, un peu plus lourdin, je trouve.
Il a été censuré dès sa sortie. On ne pourra absolument pas le faire aujourd'hui. D'ailleurs, dans votre cinéma,
oui, mais
on
vous
pas
savez,
trop
il était censuré à la sortie parce que. Il y avait les ligues de l'Église qui étaient, enfin voilà, c'était une attaque frontale contre l'Église. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on faisait le même film sur le Coran, il serait interdit aussi. Hein,
donc, bien sûr, mais il y a des scènes un peu choquantes malgré tout, un peu très très brutales.
Pas tant que
avec
ça.
Avec un garde champêtre, ça vous dit rien?
Oui, mais pas tant que ça. On voit bien pire dans des films d'horreur, etc. Mais on sait que c'est pour jouer, alors que là, on n'est pas sûr, quoi.
Bah, ça, dans beaucoup de vos films, Benoît Delépine, il y a des choses quand même pas du tout expliquées. Et puis je pense à une scène qui, je pense, a mis pas mal de gens mal à l'aise. C'est dans Mammouth, c'est la scène de masturbation mutuelle entre Gérard Depardieu et Albert Delpy.
Ben ouais, mais dans chacun de nos films, dans chacun de nos films, on aime bien mettre au moins une scène comme ça qui déstabilise complètement, quoi. Parce que c'est pas habituel, mais non, mais de toute façon là, il se trouve que c'était avec son cousin, mais ça aurait pu être avec sa cousine, hein. C'est pas, ça aurait peut-être été moins
voilà,
choquant.
Mais
le plus choquant, c'est de voir des vieux qui font du sexe, quoi. C'est ça.
Oui, caractère sordide.
Ben, c'est un peu sordos, quoi.
Ouais, c'est un peu sordos.
Mais il y en a d'autres, hein, dans certains de nos film, oui. Par exemple, quand nos deux héros disent à un paysan qui va se suicider, non mais tu vas pas te pendre comme ça, c'est pas punk et tout, et qu'on voit 5 minutes après le même paysan pendu à un manège.
Bon, c'est
dans Le Grand Soir. Mais bon, et franchement, on essaye de réveiller les gens. Mais ben en tout cas, pour la scène de Mammouth, c'était trop drôle parce que on a tourné pas mal de scènes à Royan, dont celle-là. Et il y a le maire de Royan qui avait organisé une grande une projection du film en avant-première et tout. Et on a projeté le film. Et au moment de cette scène avec Depardieu et son cousin, enfin notre héros Mammouth et son cousin, le maire s'est levé en hurlant. Ce n'est pas les demoiselles de Rochefort! Et il est parti comme ça. Donc je me suis dit, ah bah ouais, c'est pas Buñuel et le Studio 28, mais quand même.
C'est vrai, c'est une remarque assez pertinente. J'aimerais que vous nous parliez d'une de vos plus grandes influences qui joue l'armoire qui parle dans Avida. C'est l'anarchiste belge Robert Dehou, que vous a présenté Noël Godin, l'entarteur, je crois.
Ah oui, mais c'est un monsieur extraordinaire, hein, avec une voix magnifique, enfin, telle qu'on l'entend dans nos films, c'est ça. C'est pour ça aussi que c'est génial de faire des films, parce qu'on peut mettre les gens qu'on aime dedans, et puis comme ça, on les remémore. Et d'ailleurs, on se rend compte d'ailleurs que c'est souvent les voix qui font la personnalité des gens. Mais lui, il nous manque énormément, parce que c'était un vrai de vrai, quoi. Il était toujours partant pour faire un sale coup. Et puis, il y allait vraiment, quoi.
Est-ce que vous me permettez de raconter l'anecdote du couteau et de votre arrivée ou pas, Benoît Delépine?
Oh, allez-y, de toute façon, quand même.
Parce que c'est drôle.
On a encore le droit d'avoir un couteau.
On a le droit. Donc je le dis pour les auditeurs, l'émission a failli ne pas se faire parce que vous avez toujours un couteau sur vous et ils n'ont pas voulu vous laisser rentrer en bas de la maison de la radio, donc vous avez dû l'enterrer.
J'ai dû aller cacher mon couteau à l'extérieur de la maison de la radio parce que vous voulez pas le, les vigiles voulaient pas le garder. Donc bon, écoutez, c'est comme ça. Hein, moi, je suis à la campagne. Hein, je suis bien obligé. Hein.
Bah bien sûr.
Mais dernièrement, à la campagne, j'avais pas mon couteau. Donc il y a un an. Non, mais là, pendant le confinement, hein, c'est ça. Donc je suis toujours sur mon vélo, mais je vous raconte ma vie. Toujours sur mon vélo, mais j'avais pas mon papier pour les flics là, enfin de l'attestation. J'avais pas mon attestation, donc j'ai pris des petites routes que je prenais pas habituellement. Et là, sur cette petite route, je vois un Rottweiler énorme. Donc je me dis merde. Et un deuxième, et ils m'ont poursuivi. Il y en a un qui m'a chopé au mollet. Il a jamais voulu me lâcher. Je lui ai tapé dessus et tout. J'ai fini par m'en sortir quoi. Mais si j'avais eu mon couteau là,
ouais.
Alors que là j'ai encore la trace des dents.
Oh là là.
Bah oui. C'est ça. Hein. C'est l'aventure la campagne.
C'est vrai. Mais est-ce que c'est autant l'aventure que dans les tableaux de Jérôme Bosch, cette transition est vraiment incroyablement mauvaise et médiocre, Benoît Delépine, aidez-moi, vous avez choisi.
Ah non, Jérôme Bosch, c'est ouais. Extraordinaire, c'est fou quoi.
Le spirit total dingue. Pour vous.
Ah mais je sais pas où il est allé chercher ça dans sa tête, mais non seulement où il est allé chercher ces images folles, mais comment il a réussi à les peindre et à survivre à cette époque qui était archi dure, où il a dû trouver des espèces d'alibis, je montre l'enfer, je montre le paradis, etc., etc., mais il a réussi à faire toutes ces peintures inouïes, quoi.
De science-fiction.
Oui, ben là, et en plus, là, j'étais, par exemple, ce week-end à Lille, je suis allé au Musée des Beaux-Arts, il y a une expo de Goya que je vous conseille, mais on voit aussi qu'il a que même Goya a été inspiré par lui. Il y a des peintures vraiment un peu comme ça, un peu mi-animal, mi-humaine, qui montrent que ce peintre a touché les gens pendant des siècles, en fait.
Do you like our owl?
It's artificial.
Of course it is.
Must be expensive.
Very. I'm Rachel.
Deckard.
It seems you feel our work is not a benefit to the public.
Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem.
1982, Blade Runner de Ridley Scott, librement adapté du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques du génial Philip K. Dick. Benoît Delépine, vous avez choisi L'avenir lu dans une boule de substance mort. Alors substance mort, c'est le A Scanner Darkly paru en 77. Qu'est-ce que vous appelez L'avenir lu dans une boule de substance mort, qui est une drogue dans le livre?
Ben, c'est-à-dire que K. Dick était quand même assez, il s'est beaucoup plongé dans des mondes artificiels, on va dire, et c'est pas le seul, hein. Je crois que c'est, là, j'ai lu une biographie de Baudelaire, là, de Jean Tellet, qui s'appelle Crénom Baudelaire, que je conseille à tout le monde. Mais c'est lui le phare noir de notre civilisation, Baudelaire. C'est-à-dire que, en allant très loin dans les drogues, dans la folie, dans la gêne, dans tout ce qu'on veut, et il a inspiré, tous les autres ont été ridicules d'un coup, et on continue à ressentir cette onde de choc. Et quelqu'un comme K. Dick a forcément lui aussi été inspiré par lui. Il a foncé là-dedans. C'est pas forcément ça qui lui a donné l'inspiration non plus, hein, mais en tout cas il a dû frôler des mondes interdits. Il est allé très loin. Et puis surtout, c'est lui, en tout cas Philip K. Dick, qui est le pape de la science-fiction moderne, quoi. C'est avec ces gens, enfin ces précog qui arrivent à connaître l'avenir comme ça. Enfin c'est trop. C'est trop fort.
Lui, il souffrait de paranoïa, mais parfois à raison. J'ai l'impression que dans vos films, Benoît Delépine, il y a beaucoup de gens qui veulent se venger de ceux qui les espionnent. Je pense à Effacer l'historique et les GAFA. Je pense au scotch dans Avida sur votre visage pour pas avoir de visage avec des traits reconnaissables. Je pense à Mammouth où Yolande Moreau se fait voler son téléphone par Anna Mouglalis et est persuadée qu'elle se moque d'elle et qu'elle espionne toute sa vie sur ce téléphone. C'est récurrent, ça.
Bah ouais, un peu. Mais là, en l'occurrence, pour le scotch, j'avais pas tort, parce que vous avez vu, maintenant,
bien sûr,
il y a des logiciels de reconnaissance faciale inouïs, où n'importe qui peut être reconnu. D'ailleurs, Ça va tellement loin, ces espèces d'outils, qu'on peut imaginer, par exemple, que tous ceux qui ont tourné dans tel ou tel film porno, je sais pas quoi, dont, tout d'un coup, on peut balancer une liste mondiale de tout ce... Non, mais c'est dingue, quoi. Comment on peut se protéger de ça? Je sais pas. Hein.
Mais on peut pas, parce qu'on peut même maintenant faire des effets spéciaux si convaincants qu'on pense que les gens eux-mêmes, on pourrait mettre n'importe qui dans un film pornographique.
Bah ouais, voilà. Mais du coup, mon personnage dans Avida avait pas tort, dans le sens où en fait c'est le on s'est inventé Dieu. Il y a d'abord eu des prophètes entre guillemets qui, à force d'aller cuire dans le désert, revenaient avec des visions. À chaque fois, vous remarquerez, revenaient avec des visions. Il m'a dit de dire ça, crac. Bon voilà. Donc ça, mais ça c'était le début. Mais nous, on a inventé plus fort que des dieux inventés. On est vraiment surveillé par une espèce de dieu global qui s'appelle Internet et qui sait exactement tout de vous, ce que vous avez fait, ce que vous pensez, ce que vous achetez, etc. Et on peut même penser qu'à la fin, on puisse être jugé et aller ou non dans une forme de paradis numérique.
Les gens prennent pour acquis les avantages de la démocratie libérale parce qu'ils ont oublié qu'ils sont nés après l'âge terrible des dictatures au milieu du XXe siècle. Et ils ne se rendent pas compte des risques auxquels nous devons faire face. Et malheureusement, personne aujourd'hui au sein des systèmes politiques, que ce soit à gauche ou à droite, n'est capable d'offrir une vision qui ait un sens pour le lieu où sera le genre humain en 2050. Et cela crée une crise psychologique collective qui pousse les gens à se tenir à ces récits anciens de la nation, de la religion.
L'historien israélien Yuval Noah Harari dans Boomerang d'Augustin Trapenard en décembre 2018, la traduction est assurée par Michel Zlotowski. Sapiens d'Harari est le livre que tout le monde devrait lire pour être armé dans l'existence, selon vous, Benoît Delépine. Vous le qualifiez de Bible des laïcs. C'est une vue d'ensemble de l'histoire de l'humanité et de son évolution. Et le principal argument, c'est que justement l'Homo sapiens doit son statut dominant au simple fait que lui, contrairement aux autres animaux, est capable de coopérer efficacement avec un grand nombre de ses semblables. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Ouais, alors ça c'est le côté optimiste de son message.
C'est sinon ce côté-là.
Non, c'est pas tellement ça, mais en tout cas, moi je trouve que effectivement, plutôt que de lire des livres trop anciens, celui-là, il tient le coup et puis raconte un peu ce qu'est la nature humaine et pourquoi on en est là. Alors on peut peut-être en discuter, mais en tout cas, anthropologiquement, etc. Enfin, savoir l'histoire de nos débuts, voir pourquoi on vit en société, pourquoi on fait des guerres, pourquoi ceci, pourquoi cela, ça c'est vraiment important de lire ce bouquin, je trouve. Alors les tomes d'après ils deviennent de plus en plus complexes. Moi les derniers, j'avoue que j'ai lâché la rampe. Hein, mais le dernier Nouveau Testament, j'ai arrêté.
Benoît Delépine, je demande aux invités de prendre un engagement à la sortie de l'émission et vous avez répondu que vous vous engagez à acheter une machine à écrire chez Emmaüs et à ne plus jamais aller sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux, ce qui ne vous demande pas un grand effort puisque vous n'y avez jamais mis les doigts. Vous avez déjà prévu la machine à écrire chez Emmaüs?
Alors, et en plus, figurez-vous que je l'ai fait du coup, hein, puisque... Voilà,
l'émission.
Avant l'émission, je me suis dit, tiens, mais c'est vrai que c'est une bonne idée ce qu'elle me dit. Alors, il faut savoir que un peu partout en France, hein, il y a des déchetteries. C'est très intéressant avec mon ami Frédéric Felder en Charente. Nous sommes allés visiter toutes les déchetteries et pour savoir ce que deviennent nos poubelles, qu'elles soient jaunes ou noires. Et figurez-vous que dans la plupart des déchetteries, maintenant, il y a vraiment des endroits dédiés. Tout ce qui n'a pas réussi à être récupéré, il y a encore des choses qui passent à travers tous ces filtres. Et puis, ben, il y avait une machine à écrire. Donc, non seulement j'ai une machine à écrire magnifique, mais elle m'a été donné par la déchetterie. Voilà.
C'est très beau.
Oui.
Benoît Delépine, il nous reste 2 minutes pour aborder des choses qui n'étaient pas prévues. La littérature. Vous m'avez dit hors antenne que vous lisiez des choses super en ce moment et donc ce serait formidable de pouvoir les transmettre aux auditeurs.
Il se trouve que j'ai participé à deux prix dernièrement. Le prix qui a lieu dans le Festival du film Grolandais à Toulouse. Et puis aussi un prix, un nouveau prix du premier roman qui a lieu au Cheval Blanc à Lille, qui a un bar historique, mais extraordinaire, avec Madame Monique. Monique du cheval blanc, enfin bon, bref, elle se reconnaîtra. Mais en tout cas, c'était magnifique. J'espère. Et on a lu une quinzaine de romans sublimes. Et la gagnante, alors le livre, il est magique. C'est Le chant du poulet sous vide, aux éditions Paul. Et c'est inouï, c'est l'histoire d'une femme qui est, enfin la ville, elle est obligée de tuer les poulets parce que sa mère est morte, elle est obligée de tuer les poulets de l'élevage, mais il se trouve qu'elle fait un poème pour chaque poulet avant de le mettre en vente. Donc les gens achètent ces poulets avec un petit poème. Finalement, elle a du succès parce que c'est différent comme méthode de vente. Un autre livre qui m'a beaucoup fait rire, qui s'appelle Le rapport chinois de Pierre d'Arcagnan. Alors ça, c'est un espèce de bouquin, on dirait La conjuration des imbéciles, mais aujourd'hui.
Wow.
Et aussi, mais alors le livre qui m'a le plus marqué, mais c'est inouï, j'en suis pas encore revenu, j'ai encore la boule au ventre de ce qui peut être dit dans ce livre. C'est inénarrable, ça s'appelle Le démon de la colline au loup de Dimitri Rouchambari aux éditions Le Tripode. Alors ça, c'est, j'ai jamais vécu ça, et pourtant je lis quand même pas mal de bouquins, et celui-là, il me reste encore en moi. J'en pleurerai presque, voilà.
Waouh, merci beaucoup Benoît Delépine. Merci d'être venu dans cette émission et pour tous ces partages. Je rappelle que l'intégralité des films que vous avez réalisés avec Gustave Carverne vient de sortir en coffret DVD chez Ad Vitam et aux éditions La Tango, le livre Le cinéma de Benoît Delépine et Gustave Carverne de Christophe Jeudin et Jérémy Imbert. On attend donc votre prochain film pour les présidentielles. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous, sur les réseaux sociaux que vous détestez tant et vous avez sans doute raison.
J'ai pas le temps.
J'espère que
peur de vous savez pourquoi.
Oui, je sais, on va se mettre du scotch partout. J'espère que votre humeur est aussi tendre que celle d'un accordéon galant épris d'une liqueur adultérine. Rendez-vous dimanche prochain à 10h.